C'est 23.
Bienvenue à la commission Normando-Ferrandez.
Le sujet, parce que nous aurons les rapports des commissaires en deuxième partie, et c'est un sujet qui a fait jaser pas mal sur les réseaux sociaux hier. Est-ce que les médias auraient dû couvrir, certains même en direct, la fameuse conférence de presse de M. Awad? Luc?
Ben non, parce que ça lui donne l'occasion de raconter une histoire sur lui-même, de construire sa légende, ses drapeaux en arrière de lui, ses réponses un peu plus politiques d'habitude. Tu voyais que la personne la plus heureuse dans la salle, c'était lui, là. Et ça, c'est sûr, il a dit que ça allait faire partie de son livre. Alors lui, il soit déjà écrivain. Il a pas écarté non plus la possibilité de se présenter en politique. Pour moi, c'est un mythomane qui se croit tout seul puis qui se rend pas compte qu'il est le clown dans la salle. Mais c'est en même temps, c'est irrésistible là, pour les journalistes. Mais moi, je peux te dire, en tout cas, que je suis totalement sous son influence. Oui, hier, j'ai appelé une fille que j'avais pas parlé depuis longtemps, puis j'ai envoyé un poème d'amour. Ça va comme suit. Je te colle pour rien te dire, juste que je file décentralisé quand tu me vapotes ta smoke d'en face.
Mais c'est drôle, Luc, mon chat, t'es inspiré. Il inspire quand même, Monsieur Awad.
Mais c'est parce que c'est du français. C'est un français qui sort de nulle part. Tu sais, c'est des mots qui sont attachés ensemble, des pronoms qui sont jetés par-dessus. Tu sais, des fois, il y a du français plus cohérent, là, mais quand il part, là, tu dis « Oh my God! » Ce gars-là n'est contraint par aucune règle, tu sais, par aucune règle, même pas parce qu'il le dit. C'est un univers parallèle.
Vraiment,
puis moi, je pense qu'il y a une fascination. Là. C'est sûr que les journalistes sont allés là parce que tout le monde rêve de le démasquer. Là. Tout le monde se dit « OK, il y en a un, moi, c'est moi qui vais l'attraper. » Là. Mais il y a aussi une fascination de le voir s'enfoncer dans ses réponses, dans son, tu sais, ses statuts, ses chars, ses chics, etc. Moi, juste le mot influenceur, influenceuse déjà. Là. Pour moi, tu sais, une influenceuse, c'est quelqu'un, ou un influenceur, là, c'est quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, même quand il garde son chandail. C'est pas des gens. Tu regardes les photos, là, tu dis, peut-être que je peux comprendre pourquoi il y a 1 million d'abonnés, tu sais. Et ils se croient entre eux. Ils sont hyper marginalisés. Ils se parlent uniquement entre eux, mais ils se croient. Ils pensent qu'ils vont réussir à nous faire passer, et lui en particulier, qu'il va réussir à nous faire passer son histoire. Et c'est quasiment de la télé-réalité.
Est-ce qu'on peut dire que le gars se prend pas pour un 7-Up dégazé, puis en même temps, il y a un côté ésotérique qui nous échappe complètement. Tu y as fait référence un peu, Luc. Il a déclaré hier « Je vois la vie d'une façon décentralisée ». Là, tu fais comme « Attends une minute ».
Mais ça veut dire quoi, ça?
Ben, c'est ça, exactement. Et d'ajouter « Tout ce qui compte, c'est le présent et le futur ». Non, écoutez, cette conférence de presse-là, hier, avait rien à voir avec l'information, mais tout avec la manipulation. D'ailleurs, dans un très bon article publié par la presse mercredi, il a déclaré aux trois journalistes « L'attention des médias en ce moment va être bonne pour mes compagnies ». Et des compagnies, tenez-vous bien, il en a 54 à travers le monde. Depuis l'âge de 14 ans, a-t-il affirmé, il fait entre 2 et 3 000 $ par jour depuis l'âge de 14 ans. Lui, il voit la vie comme un jeu vidéo, il prend pas ça au sérieux. Là, tu l'as dit, Luc, il lance un livre en 2025, mais avant, il y a un disque qui va arriver en février. Il a fait l'acquisition de biens mobiliers d'une valeur pour 17 millions de dollars. 17 millions de dollars, oui, je veux insister sur le montant, qu'il a payé comptant, selon ce que la presse a rapporté. Fait que je comprends effectivement que les journalistes veuillent le démasquer, parce que clairement, il y a anguille sous roche. Mais bon, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Je n'en sais trop rien. Mais là, hier, la scène était surréaliste. Non seulement par le décor, hein, vous avez vu là, le drapeau américain, canadien, québécois. On se serait cru dans une mauvaise scène de House of Cards, vraiment. L'autre chose, c'est le discours qui l'a porté, au-delà de ses propos qui étaient décousus. Il y a, dans le fond, il s'est pas excusé, hein, parce qu'il a convoqué la presse, pourquoi, revenons à ça, pour s'expliquer sur les événements du 31 décembre dans l'avion, là, avec Sunwing. Il a dit, et ça a pris une question de Yves Poirier de TVA pour qu'il s'excuse au nom de ses fauteurs de troubles, mais dans le fond, lui, il est passé à l'attaque hier en disant qu'il va poursuivre probablement Sunwing pour bris de contrat. Il a accusé Air Canada, Transat et Sunwing d'avoir abandonné 154 pauvres personnes sur des plages du Mexique.
Dont une seule avait vapoté dans l'avion, tu sais.
Ben voilà. Puis tu sais, il a eu le culot de dire, le party que vous avez vu sur les réseaux sociaux, là, ben, ça a duré 5-10 minutes. Là. Lorsqu'il y a eu la turbulence, puis le pilote nous a demandé de nous asseoir, on s'est assis. Hey, écoute, champion, nous prends-tu pour des imbéciles? Là? Voyons donc, un party qui dure 5-10 minutes. Vous avez vu ça, l'intensité du party sur les réseaux sociaux? Enfin, fait que pas... Honnêtement, c'est un personnage qui est né au Québec. En passant, il se faisait appeler Kevin hein, jusqu'en 2015. Il a changé son prénom et là, maintenant, il s'appelle James William Awad. On va peut-être découvrir autre chose au fil des semaines et des mois qui vont passer. Mais clairement, toute cette attention-là lui sert. Il l'a dit, là, il ne s'est pas caché de ça.
On ne sait pas c'est quoi son truc, mais un des trucs qui a été utilisé par d'autres... je ne dis pas que c'est un fraudeur, on n'a pas de preuves, mais d'autres fraudeurs à travers le monde qui ont utilisé, c'est de construire une image et de demander à des gens d'investir en faisant valoir les clips de journaux, à un moment donné, j'étais consultant pendant quelques années où je travaillais à faire de la couverture médiatique pour des entreprises en haute technologie. Puis ce qu'ils avaient de besoin, là, c'était des articles dans des journaux comme le National Post, le Financial Post, etc., pour démontrer qu'ils existaient. Et c'était et qui avait de la valeur et qui avait de l'importance. Quand il commençait à être dans les journaux, il allait voir des investisseurs et dire, regarde, on est même dans les journaux. Mais ça, c'est un truc qui a été utilisé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraudeurs à travers le monde. Et donc, la possibilité, je dis pas, tu sais, je répète, là, c'est une hypothèse que je fais sur lui, là, je dis pas que c'est ça qu'il a fait, mais dans des cas comme le sien, il y a des gens qui se sont servis de la couverture médiatique pour influencer des investisseurs mal avisés, des gens qui ont beaucoup d'argent mais peu de connaissances, puis qui ça se pourrait que donc à ce moment-là qu'une conférence de presse puisse servir ce genre de personnes-là.
Clairement, mais je répète, Luc, il a dit, l'attention des médias en ce moment va être bonne pour mes compagnies. Puis j'ajouterais à ton argumentaire, on dit toujours qu'en politique, l'attaque, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est exactement ce qu'il a fait. Ce gars-là s'est retrouvé dans le rang des accusés, puis là, il s'est transformé en accusateur. Hein. Il a dit, il a pointé du doigt Sunwing, puis on va vous poursuivre. C'est assez incroyable. C'est sûr, il est habile, le gars est très habile.
Nathalie, t'es sûr que la prochaine fois qu'il va faire un voyage, un party au Mexique. La publicité, ça va être « Venez avec moi au Mexique, c'est pas sûr que vous allez revenir. » Ça se vendra pas beaucoup. Là. Fait qu'il faut qu'il démontre qu'il va sortir de ce mauvais pas-là. Il faut qu'il démontre qu'il est capable de sortir de ce pas-là.
Oui, mais Luc... Oui. Non, mais j'allais dire, il y a quand même... c'est un couteau à deux tranchants. Parce que là, je sais pas comment il a fait sa fortune. Je sais pas comment il opère ses compagnies. Ça demeure mystérieux, puis il veut pas trop répondre à ça, là, à part d'employer le mot « décentralisé ». Mais t'attires l'attention, ça peut aussi te nuire à un moment donné.
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a plein de journalistes qui sont là-dessus. Là. La presse, le bureau d'enquête, oubliez ça. Il y a d'autres affaires qui vont sortir. Là. Mais moi, ce que je trouvais fascinant hier, c'est qu'il a trouvé le moyen de brancher son 111 Private Club, là, sa compagnie, là, en voulant dire, il va y avoir d'autres voyages. On est en train d'organiser quelque chose pour la Saint-Valentin. Tu sais, un petit message comme ça. Ben oui, non, un petit message comme ça en passant. Ben, non, oui. Je vous dis, le gars, il est comme, on dirait, tu l'as dit, là, qui vit dans un univers, dans une espèce d'univers parallèle, pas de scrupules, pas d'inhibition. Ah ouais, go, on y va.
J'ai une totale impression qu'on le croit, que ça va marcher, tu sais, qu'il peut dire quelque chose puis on va le croire.
Exactement.
C'est amusant, ça, quand même. Tu sais, tu fais face à 50 journalistes avec beaucoup de calme, puis tu dis le contraire de ce que tu as dit la veille, puis on va te croire.
Sais-tu quoi? La dernière fois que j'ai vu une conférence de presse comparable, c'est-à-dire quelqu'un qui se prend pour un chef d'État avec des drapeaux puis qui convoque les médias puis qui a autant de médias, c'est quand Raël avait annoncé l'arrivée des Elohim. non, mais je te dis...
Mais c'est un bon parallèle, ben, Paul. Oh, c'est un bon parallèle. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est ça, justement. C'est un univers parallèle. C'est des gens qui tu te dis, waouh, hey, ça existe, tu sais. C'est extraordinaire. Moi, je pense qu'il y a un autre élément aussi. Il y a que les gens en ont super marre de l'impunité des fraudeurs ou des gens qui font les choses en dehors des règles puis qui se font jamais attraper. Le gars qui a rasé une forêt de nuit sans permis à Val-des-Lacs, le gars qui décape des milieux humides, ça arrive sud, les personnes qui ont inventé des centaines d'adresses pour aller collecter de la PCU, les gens sont tannés, les fraudes de toutes sortes qui ressortent, les faux investisseurs, le gars qui a volé la personne âgée hier dans le journal de Montréal, s'est acheté un VR avec les fonds qu'il devait investir. Ouais. Les gens sont tannés, là, puis tout le monde rêve que quelqu'un se fasse attraper, là, vraiment comme il faut, là. Une sorte de voyeurisme. On a hâte de voir ce genre de personnes-là se faire attraper.
On s'arrête là-dessus. Au retour, c'est le moment de présenter le rapport de la semaine.
Vous écoutez Nathalie Normando et Luc Ferrandez. Vous écoutez la commission Normando-Ferrandez.
Alors, c'est le rapport des commissaires et on commence avec Nathalie.
Oui, mon prix orange cette semaine va à Victoria Kaliski. C'est une jeune de 23 ans, étudiante à McGill, qui, vous avez peut-être vu ça dans le Journal de Montréal, elle a distribué 581 manteaux, gants, chapeaux pour les personnes sans-abri. Ça s'est passé lundi à Montréal, tout ça d'une valeur de 14 000 Opération possible grâce à une campagne de sociofinancement, la collaboration de son père. Alors, bravo à Victoria. C'est une superbe initiative qui pourra en inspirer d'autres de ce type. Mon prix citron va au Centre jeunesse de Laval et merci à toi, Luc, de nous avoir... d'avoir partagé ce reportage fait par CTV sur ces pauvres jeunes filles et jeunes garçons qui sont dans des centres qui vivent en groupe, là. Donc, Centre jeunesse de Laval qui a enfermé plusieurs de ces jeunes pendant 10 jours dans des pièces sans fenêtres en raison d'une exposition possible de la COVID. Et lorsqu'on s'est défendu en disant, ben, c'est une directive du ministère de la Santé, heureusement, il y a des travailleurs sociaux qui ont levé la main puis qui ont dit, ben non, ça n'a aucun bon sens de faire ça à des jeunes. Il y en a qui ont vraiment eu des réactions très, très vives. Imaginez, là, tu sais, être enfermé pendant 10 jours pour sans fenêtre parce que tu vois peut-être, tu risques peut-être d'attraper la COVID. C'est épouvantable. Alors, vraiment, mon prix, mon gros prix citron, comme tu dis, mon cher Luc, là, tu sais, ben, pas beaucoup de sucre, là, ben de l'acide, là, ben de l'acidité, puis ben du jus dans le citron. La phrase de la semaine, on ne nationalisera pas le steak haché. Je la trouve bien bonne, celle-là. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a prononcée dans le cadre de son point de presse hier à l'Assemblée nationale. C'est intéressant parce que Québec solidaire et son nouveau chef sont en train de se positionner vraiment, je trouve, de belle façon pour la campagne électorale. Alors, pour contrer l'augmentation du coût de la vie, Québec solidaire demande au gouvernement de geler les prix des loyers, d'annuler la hausse des tarifs d'Hydro-Québec et d'augmenter le salaire minimum à 18 $ de l'heure. Alors, c'est des mesures qui vont probablement avoir un écho, qui sont, comment dire, très... qui sont en adéquation avec ce que vivent les gens sur le terrain. Le mot de la semaine, et je vais terminer là-dessus, mollo, mollo avec deux L, mesdames et messieurs. Le premier ministre Legault, on peut le dire, hein, il a le sens de la formule. Puis c'est exactement ce que va faire la santé publique. Vous avez peut-être écouté le point de presse, parce qu'après mollo, il y a solo, après le point de presse solo du docteur Boileau, qui a dit qu'il y aurait des assouplissements une semaine à la fois. Alors lentement, mais sûrement, ça va bien aller. Puis oui, il faut continuer d'aller mollo.
Luc.
Voilà.
Bien, merci. Moi, d'abord, chapeau à Biden qui a réussi à réunir l'Europe derrière, pas juste l'Europe d'ailleurs, mais en particulier l'Europe derrière lui dans sa menace de réaction à un envahissement par la Russie de l'Ukraine. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là. Donc, l'Allemagne qui avait commencé à mettre des bémols, la France aussi, tu sais que les Européens, les pays européens sont toujours très, très, très jaloux de leur indépendance, puis ils veulent avoir des réactions qui leur sont propres, ils veulent pas être juste dans un wagon du train américain dans les affaires internationales, mais là, tout le monde accepte d'être un wagon du train américain, et ça fait longtemps que... Il n'y a pas eu cette grandeur américaine, là, cette capacité des États-Unis de faire régner la loi et l'ordre dans le monde pour les bonnes raisons. Évidemment, il y en a eu des très mauvaises raisons. On le sait avec la guerre en Irak, puis dans d'autres guerres aussi. Et on est loin de Trump, là. On est dans le grand geste de l'homme d'État américain. J'espère que ça va l'aider à remonter dans les sondages. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de voir ça. L'autre affaire, c'est un autre élément qui m'a frappé beaucoup, c'est les cas d'immigrants là, qui ont été, ils ont tenté de franchir illégalement la frontière du Manitoba. Je sais pas si t'es allé au Manitoba en hiver. Ici c'est froid, là-bas c'est frette en maudit. Ben c'est frette comme des régions du Québec, là, certaines régions du Québec, là, comme le Nord, la côte Nord, etc. C'est froid. Et là, tu vois les photos, là, le petit bébé, la jeune fille de 11 ans, les parents. J'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça avoir une photo de leurs souliers quand le passeur les a laissés dans la tempête de neige. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils portaient comme vêtements. Et ils étaient voués à une mort certaine. C'est pas parce que sur la carte, ça a l'air proche, le Canada des États-Unis, que il faut quand même peut-être que tu marches un 20 km avant d'atteindre un village, là, ou peut-être un 10 km, je sais pas, dans cette région-là. Mais peut-être ça se peut que ça soit 20, là. Et la vraie horreur, là, c'est le gars qui les a laissés sur la route, là, puis qui a refermé la porte, puis après ça, il a regardé son téléphone pour voir s'il y a des messages, il a mis la chaufferette, puis il est reparti. Là. Mais tu vois, ça, c'est, dans les films américains, on te présente les méchants comme des ultra-méchants, tu sais, avec des yeux rouges, puis ils te font peur, puis non, les ultra-méchants, là, c'est des ultra-indifférents, là, comme ce gars-là. Et moi, ça m'a scié les jambes de savoir que ça existe. Un rapport d'Oxfam sur la pauvreté dans le monde qui nous apprend que l'extrême pauvreté, c'est-à-dire les gens qui gagnent moins de 2 $ par jour, a fondu entre 1980 et aujourd'hui. On est passé de 40% de la population mondiale qui gagnait 2 $ par jour, moins de 2 $ par jour, à 10%. Et ça, évidemment, c'est la Chine et l'Inde, mais surtout la Chine qui produisait des pauvres là, par centaines de millions, puis qui leur a donné des emplois dans des sweatshops, évidemment, 14 heures par jour de travail, qui ont détruit au passage l'environnement, puis qui ont réchauffé la planète sur un vrai temps, parce que tout ça, c'est produit avec de l'énergie produite au charbon. Donc, il nous a précipités dans une crise épouvantable. Il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que il y a des milliards de personnes qui ne mangeaient pas et qui, aujourd'hui, mangent. Il en reste toujours bien 770 millions qui sont dans l'extrême pauvreté, mais ce phénomène-là passe parfois sous silence, et Oxfam nous le rapportait cette semaine. En dernier, j'aimerais vous parler du Dr Fauci. On pense que le Dr Arruda, ici, est maltraité. Faut voir le triste destin du Dr Fauci aux États-Unis. C'est le docteur qui dirige la santé publique américaine, les Center for Disease Control, le CDC. On a beaucoup entendu parler de lui. C'est souvent lui qui a donné le la dans le monde entier. Là, on attendait de voir ce que le Dr Fauci allait dire. Les santé publiques du monde entier étudiaient ce que disaient les Américains. Puis là, maintenant, il a reçu une visite d'un journaliste. Sa maison est entourée de caméras, des gardes de sécurité qui sont visibles devant la porte, mais d'autres qui sont en civil. Il y a des animateurs de Fox News qui l'ont comparé à Joseph Mengele, le médecin fou de Hitler, le docteur nazi. Il y a un gars qui a été intercepté avec une AR-15 en Californie qui se dirigeait vers sa résidence. Il était sur la liste des personnes qui voulaient assassiner. Il y a des gens qui ont dit, mais il y a même des députés républicains, là, il y a des représentants républicains qui ont dit qu'il avait tué des millions de personnes pour faire monter ses actions en bourse. Tu sais, des espèces d'histoires de complot, un mélange complot, menace, violence. Tu dis, quand tu regardes le traitement du Dr Arruda ici, tu dis, mon Dieu, qu'on est bien. Hein? On n'est pas dans le même monde. Et ça fait plaisir, des fois, une fois de temps en temps, de se rappeler que nos histoires, on les règle avec pas mal plus d'humanisme, puis pas mal plus d'un sens de la nation, puis un sens de la collectivité.
Merci à tous les deux. Bonne fin de semaine. On vous retrouve lundi.
C'est 23.